offerte.
Usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie,
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Ce mardi, jackpot Euromillion de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Calcul en cours. Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite ? J'hallucine, grave.
Avec le pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. En attendant, 18h pile.
Parlons.
Et le journal présenté par Elsa Ruot. Bonsoir Elsa.
Bonsoir, bonsoir à tous. Strasbourg, Menton, Grenoble, Dijon. La mobilisation des étudiants en soutien à la Palestine gagne du terrain dans les facs françaises. Un phénomène générationnel, nous expliquera un politologue au début de ce journal. Une campagne de sensibilisation aux violences éducatives lancée aujourd'hui. Elle veut briser le cercle vicieux des violences contre les enfants et amener à une prise de conscience des parents. Et puis à la veille du 1er mai, on parlera muguet, pointé du doigt pour son impact écologique, les fleuristes assurent qu'ils font des efforts. Après Sciences Po Paris, après la Sorbonne, le mouvement étudiant pro-palestinien continue de s'étendre. Depuis plusieurs jours, on a de nouveau blocage des universités et des écoles de sciences politiques. Les étudiants demandent l'arrêt immédiat des combats à Gaza, mais aussi la fin des partenariats de leur fac avec Israël. Et d'un point de vue historique, il n'est pas étonnant que ce soit les jeunes qui montent au créneau, selon le politologue Thomas Guénolé.
La population jeune et étudiante, historiquement, elle est prédisposée à se mobiliser sur ce qu'elle estime être des injustices ou des grandes cause pour un idéal important. On peut penser aux 68ards. Étudiante, pourquoi ? Parce que qui dit jeunesse étudiante dit jeunesse fortement éduquée, donc ayant accès à beaucoup d'informations et beaucoup de grilles d'analyse, et qui a aussi le temps, contrairement à une jeunesse qui ne serait pas étudiante et qui serait déjà dans la vie active, qui a donc le temps de réfléchir à ces questions-là, de se politiser en réalité. Et là, il se trouve que, manifestement, la cause palestinienne les interpelle davantage. C'est générationnel, hein.
Et à l'Assemblée nationale, tout à l'heure, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a déclaré à propos de cette mobilisation des étudiants, les blocages et les intimidations, c'est non. À l'Assemblée, encore des passes d'armes entre le gouvernement et la France insoumise, après la convocation par la police de Mathilde Panot et Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Un motif aussi inouï qu'absurde, affirme cet après-midi la chef de file des députés LFI, qui ajoute que ceux qui l'ont convoqué sont complices d'attaques contre la séparation des pouvoirs et de censure. Dans l'actualité également, le rapport de 165 pages est maintenant entre les mains d'Emmanuel Macron. Le président de la République avait demandé à 10 experts de lui faire le point sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Et après 3 mois de travail, la commission vient de lui remettre ses préconisations. Elle recommande l'interdiction stricte des écrans pour les moins de 3 ans, une limitation jusqu'à 6 ans. Reste à savoir comment le gouvernement va mettre en application ses recommandations. La France, qui avait aussi pris des mesures pour interdire les violences éducatives ordinaires. C'était il y a 5 ans avec la loi dite anti-fessée. Et alors que c'est aujourd'hui la journée internationale de la non-violence éducative, l'association Stop VEO pour violences éducatives ordinaires lance une campagne de sensibilisation sur ce sujet. Et pour Céline Kellen, directrice générale de l'association, il existe plusieurs outils pour rompre ce cycle des violences, à commencer par la prise de conscience.
Quand on entend des gens qui disent « Ah ben moi, j'en ai reçu, mais c'était pour mon bien », par exemple, cette expression terrible, c'est pour mon bien. Alors, l'idée n'est pas de porter un jugement sur ses parents. On est bien d'accord qu'on tourne le dos à la violence, mais on ne tourne pas le dos à ses parents. Nos parents ont tous fait comme ils ont pu, avec les connaissances qu'ils avaient. Mais c'est bel et bien une prise de conscience. Et puis après, d'aller chercher, d'aller se renseigner, comprendre comment on devient un adulte ressource non violent. Et puis enfin, quand les traumatismes sont trop installés, c'est de se faire aider, par le biais d'une thérapie, d'en parler à son médecin, d'aller voir du côté des psychologues, etc. Parce que des fois, oui, on ne peut pas le faire soi-même tout seul,
À l'étranger, Donald Trump condamné à 9 000 $ d'amende aujourd'hui. L'ancien président visé par le tribunal de New York où il est jugé au pénal dans une affaire de paiement frauduleux à une ancienne star de film X. Des sanctions après une série d'outrages lors de cette audience. Donald Trump avait enfreint l'interdiction de s'en prendre aux témoins et jurés lors de ce procès. Le juge indique qu'il ne tolérera pas de nouvelles violations. Et puis c'est demain la fête du travail. Et qui dit 1er mai dit bien sûr muguet. Chaque année, entre 50 et 60 millions de brins sont produits en France. Mais cette culture massive est critiquée par la CGT Sud-Loire qui dénonce les quantités d'eau et de sable nécessaires à sa récolte. Pourtant, Farel Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes, l'assure, la filière s'adapte au réchauffement climatique.
Je pense que c'est un faux problème. Toute la filière de l'amont à l'aval s'est engagée dans des mesures et par rapport à la préservation des ressources, mais au même titre que l'énergie. En fait, à la production, effectivement, de temps en temps, il y a besoin de chauffer. Par contre, pour le coup, la méthanisation, c'est des choses qui sont en place. Les enjeux de responsabilité socio-environnementale sont des choses auxquelles toute la filière, en fait, s'est déjà engagée. L'irrigation par du goutte à goutte, c'est pas des mesures qui sont récentes chez nous, c'est déjà des choses qui sont depuis déjà de nombreuses années en place. Nous sommes aussi des citoyens et on a pris à bras le corps toutes les problématiques écologiques.
On termine avec le foot et en attendant le match du PSG demain contre Dortmund, place ce soir à la première demi-finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid et les Français Tchouaméni et Camavinga devraient être titulaires côté madrilène dans ce match aller. Le coup d'envoi c'est à 21h. Voilà pour l'info, très bonne fin de journée à l'écoute de Sud Radio.
Merci à vous Elsa Ruot et dans quelques instants, je vais vous le dire, j'en ai marre de l'infantilisation et de l'état nounou.
Allez, tout de suite la météo.
La météo Sud Radio.
Cher Rémi André, une annonce qui ne va pas plaire à tout le monde, quoique de la pluie toute la journée demain.
Eh oui, quasiment, et quasiment pour tout le monde, puisque dès le matin, on aura de la pluie depuis la Provence jusqu'à l'Occitanie. Cela remontera vers le Massif central, évidemment. Cela remontera ensuite en direction donc du bassin parisien, du centre, mais également de la Normandie. Enfin, bref, peu à peu, c'est quasiment tout le pays qui sera concerné par, dans l'après-midi, notamment par la pluie, voire les orages. Seule la pointe bretonne retrouvera un temps variable, mais frais. L'Alsace va retrouver un temps plutôt ensoleillé avec des températures qui là pourront atteindre les 26 à 27 degrés. Sinon, partout ailleurs, il faut s'attendre à avoir quelques gouttes de pluie.
Merci beaucoup Rémi André. Okay.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Vous avez demandé la police, ne quittez pas. On vous la passe tout de suite. Voilà, avec Philippe Bilger, dans le rôle de la justice.
Avec... Si la justice, c'est Philippe Bilger, on est mal barré.
Dans le rôle du prévenu numéro 1, Philippe David. Prévenu numéro 2, Françoise Degoire.
Bien sûr, et l'avocat de Rugy, j'espère.
Absolument, avocat général.
Moi, j'aurais bien aimé. Non, avocat général, c'est procureur.
Avocat de la défense, pardon. Ah, oui. Général. Bah, non,
moi, j'aurais bien aimé être avocat de la défense. Pourquoi je suis prévenu avec. Alors, on a fait quoi, Philippe David et moi?
Parce qu'on a été honnête dans le jeu. Si vous ne le savez pas, cherchez bien.
Et notre témoin, dans un instant, Félix Mathieu. Félix Mathieu, de quoi parle-t-on?
De la pluie. On va reparler de la pluie après Rémi André. Elle est enfin tombée sur les Pyrénées-Orientales. Après 2 ans de sécheresse, on va faire le bilan de ces précipitations avec celui qui s'occupe du dossier eau pour la FDSEA, le syndicat agricole dans le département.
Vous avez bu ou quoi, non?
Oui,
non,
bah, la liaison dangereuse, vous l'avez entendu.
Allez, c'est avec vous dans un instant.
J'en ai marre de l'infantilisation des Français et de l'État nounou. Le dernier délire en date, le rapport sur les écrans qui nous explique comment laisser nos enfants face aux écrans selon leur âge. Alors c'est toujours intéressant de savoir quoi faire pour l'éducation de nos enfants, mais est-ce aux experts de nous expliquer comment les gérer? Ne devrait-on pas mettre simplement du bon sens dans l'éducation et que les écrans, c'est comme la nourriture, fût-elle très bonne, il ne faut pas en abuser. Même chose sur l'excuse permanente aux parents qui perdent pied et n'arrivent pas à gérer leurs adolescents. Il y a une chose qui s'appelle l'autorité, et ça ne commence pas à l'adolescence, à ce moment-là c'est déjà trop tard, mais dès le plus jeune âge. Même chose encore pour ceux qui veulent faire des écoles des parents. Va-t-elle être obligatoire dès lors qu'un couple décide d'avoir un enfant? Ou est-ce un nouveau gadget pour faire croire que sans aide, on ne peut pas être parent? Rappelons que nos parents et grands-parents, qui du fait de l'absence de contraception avaient plus d'enfants et souvent non désirés que les couples d'aujourd'hui, éduquaient leurs enfants, travaillaient dur et n'auraient jamais eu l'idée de demander une aide aussi saugrenue que l'école des parents. Alors merci à l'État nounou de ne pas infantiliser les Français qui ont bien plus besoin d'être responsabilisés que d'être pris pour des enfants. Philippe Bilger.
Je trouve que votre point de vue est très pertinent, Philippe, mais je l'aurais élargi. Moi, je veux dire, les exemples que vous prenez ne me paraissent pas les plus signifiants dans la volonté de l'État de se substituer à notre propre vie. Je le verrais plus dans comment aimer, comment mourir, comment... Non, mais des choses qui nous relèvent, qui relèvent de notre identité intime en permanence, comment, vous l'avez dit, comment manger. Il y a une multitude d'actes qui appartiennent à l'honneur de l'humain, même s'ils sont parfaitement vulgaires, qu'on veut nous enseigner. Là, je déteste cet état-là.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'on peut retourner à l'école en sabot aussi, si vous voulez. Puis, j'aimerais bien, on est des boomers, nous. Ça serait bien qu'on ne devienne pas... on a été bercés par... chaque génération explique à l'autre que c'était mieux avant. Moi, je trouve ça très bien qu'il puisse y avoir des écoles de parents pour apprendre à devenir parents. Vous pensez que la vérité révélée, l'autorité révélée, ça arrive comme ça, tant mieux pour vous si vous avez été un excellent père, mais tout le monde n'est pas comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez été un excellent père, je n'en sais rien. Mais voilà, donc, écoutez, moi, j'ai cette idée que nos parents avaient moins d'enfants, etc. Nous expliquer que tout est apocalyptique. Moi, j'ai pas le sentiment que
mais
c'était
moi.
Mais non, mais que.
J'ai
que...
dit que c'est de l'irresponsabilité.
Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le rapport, moi, je l'ai parcouru, il est vachement intéressant. Il apprend des trucs très, très bien, très intéressants. Et pourquoi pas l'école des parents, si ça peut améliorer la vie des gens. Je ne comprends pas.
François Drugy.
L'idée qu'il y aurait une forme d'État un peu infantilisateur, moi je la partage bien volontiers. En revanche, je crois que l'exemple est mal choisi parce que j'ai cru à un moment donné que Philippe David allait nous expliquer que nos arrière-grands-parents ne se posaient pas la question des écrans. Et pour cause, hein,
non.
Il
n'y
en avait pas. Donc, non mais voilà, on se pose aussi aujourd'hui des questions qui sont liées aux évolutions de la société. C'est comme l'histoire de la fin de vie. Oui, on ne s'en posait pas de questions peut-être il y a 100 ans là-dessus parce qu'on s'en remettait à Dieu, par exemple, hein, d'une manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Donc la société, elle évolue, et en effet, moi je crois que j'avais défendu cette idée à une époque, non pas de l'école des parents, mais de permettre à des futurs jeunes parents d'avoir quelques clés, de leur donner, on va pas leur dire comment éduquer leurs enfants de A à Z, mais qu'on leur donne quelques clés. Autrefois, ça se transmettait de génération en génération.
Il faut pas une école pour dire à des parents de ne pas mettre leurs enfants devant leur écran.
Mais on se souvient de la personne qui a fait un procès à un producteur de four à micro-ondes, parce qu'on lui avait pas dit qu'il fallait pas y faire y sécher son chat. Bon, voilà. Donc, c'est, oui, moi, ça me paraît absurde, ça. Ou quand je vois des campagnes de communication où on dit aux gens qu'il faut se laver les mains, je me dis, c'est un peu quand même dingue qu'on soit obligé de rappeler. Mais malheureusement, la question de l'hygiène, eh bien, si on la rappelle pas, elle ne vient pas spontanément pour tout le monde.
Il y a tout de même une propension de l'État à s'occuper avec une prétendue bonne confiance de nos problèmes.
Il y a quelqu'un qui voudrait travailler, ça fait Félix Mathieu.
Toc, toc, toc.
Oui, pardon.
Et Félix Mathieu.
Plif, plouf, plaf.
Voilà.
On va dans les Pyrénées-Orientales, oui, où la pluie est enfin tombée après 2 ans marqués par la sécheresse. Et forcément, les agriculteurs en première ligne, on a même vu à Perpignan le retour des processions pour Saint-Godéric, hein, pour faire tomber la pluie. Alors, ça, c'est le folklore, mais plus sérieusement, quel bilan de ces journées de précipitation? Nous sommes en ligne avec celui qui s'occupe du dossier pour la FDSEA 66, le syndicat agricole. Bonsoir, David Massotte.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que c'est un vrai répit pour les agriculteurs, cette pluie qui est tombée sur le département?
Oui, complètement. C'est un bol d'air. Elle est venue à un moment important. C'est la période où les cultures ont besoin d'eau. Que ce soit la viticulture, l'arboriculture, elle est vraiment bienvenue, mais on reste quand même vigilant pour le département.
J'ai une question à vous poser parce que j'ai vu un reportage assez délirant où on indique par exemple que des vignes sont en train de disparaître dans le sud de la France, notamment dans votre département, Pyrénées-Orientales, et que d'autres vignes sont en train d'apparaître en Suède. Est-ce que ça, vous le constatez, et est-ce que vous y voyez le changement climatique de façon très concrète ?
Oui, bien sûr. Après, ce qui se passe quand même dans notre département, c'est un peu spécial parce que à 100 km chez nous, il pleut beaucoup, même trop. C'est vrai qu'on est passé à côté depuis 2 ans, passe à côté toutes les pluies, et qu'il y a un secteur, notamment la vallée de la Glie, où il s'arrache des vignes.
C'est ça, je pensais à cela.
Philippe Bilger.
Quand il ne pleut pas, quels sont les moyens dont on dispose? Il n'y a rien?
Ben c'est le. Après, on a la chance d'avoir un département quand même riche pour la ressource. Mmh. Il y a des nappes profondes, il y a plusieurs nappes, il y a le quaternaire. On a du stockage sur certaines vallées. Voilà, ce qui est dommage, c'est que par exemple, vous avez le cas du Tech, l'autre vallée, oui. qui n'a pas de retenue, pas de stockage. Et ben, par exemple, aujourd'hui, il coule entre 15 et 20 mètres cubes seconde et on n'est pas capable de retenir.
Oui, c'est un problème ça, François de Rougier.
Oui, moi je l'ai souvent dit, y compris ici, hein, dans l'émission, la question de l'eau, c'est un des enjeux majeurs d'adaptation au réchauffement climatique. Ouais. Le réchauffement climatique, il est là. Hein, personne ne peut le contester, les agriculteurs en sont les premiers témoins déjà depuis longtemps. Et pour y faire face, il faut s'adapter. Et pour s'adapter sur l'eau, bah, il n'y a pas 36 solutions, c'est le stockage. Alors, c'est devenu quasiment un tabou pour un certain nombre d'organisations environnementalistes qui le refusent par principe, ce qui est complètement absurde. Dans le bassin méditerranéen, on le fait depuis l'époque romaine. Donc, il faut absolument prévoir cela dès maintenant. Du transport, parfois, sur une certaine distance. La solidarité entre les territoires, parce que ce que vient de dire le responsable de la FDSEA des Pyrénées-Orientales est très concret. D'une vallée à une autre, d'un département à l'autre. Il y a parfois de la ressource à un endroit et il y en a moins un autre, et il faut absolument avoir cette logique avec, encore une fois, une forme de programmation, d'investissement, parce que ce sont des investissements d'aménagement pour avoir de l'eau toute l'année, même quand il y a des périodes de sécheresse prolongées.
Le mot de la fin, David Massotte.
C'est notre logique, hein, c'est ce qu'on veut. On veut un maillage du département, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, les pluies, elles sont localisées. Il peut tomber 50 mm, par exemple, sur la Glie, il est tombé entre 35 et 50, et l'autre vallée, le Tech, a eu jusqu'à 100 mm.
Ah ouais.
Et voilà, il faut être capable de profiter de ces coups d'eau et de les stocker, surtout.
Merci beaucoup, David Massot, d'avoir été avec nous, responsable du dossier eau, donc, à la FDSEA 66. Merci, Félix Mathieu.
Merci à vous.
Dans quelques instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger, par exemple.
Considérable des incivilités, des agressions à France Travail
avec
en
Françoise
2023.
De
Françoise de Gouin.
L'instrumentalisation, la récupération du drame de Matisse par Jordan Bardella et Marion Maréchal, ça m'écœure.
La pollution au plastique, qui est responsable?
Ah, madame, on a des noms peut-être. 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Merci Sud Radio de donner la parole aux sans voix.
Oui.
Grâce à vous, on avance.
Sud Radio, parlons vrai.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG, demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les poires Williams demi-fruits au sirop léger Paquito sont à seulement 1,81€. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, 455 grammes, soit 3,98€ le kilo. Poire française sur la base d'un relevé en date du 29 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Super Diète, le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Super Diète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Super Diète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous aider à avoir une peau nette, choisissez le zinc Super Diète, une formule 100% végétale sans additifs. Pour votre santé, bougez plus.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
J'ai fait des étés de génie.
Chérie, toi, t'es encore allé chez Jiffy?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres? Ok, je sors les gants, la pelle et l'arrosoir.
En ce moment, chez Jiffy, il y a tout pour cultiver votre jardin. Les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros. Oui, 10 euros les 3 sacs de terreau universel 50 litres.
Au bon prix, Jiffy, on plante tout.
Seulement jusqu'au mardi 30 avril.
J'ai fait des étés de génie.
Ouvert même le dimanche.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi.
Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup. Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
S'occuper de leurs enfants.
Écoutez, chers amis, c'est pour vous dire que, voilà, dans les vraies voix, même hors antenne, ça tchatche.
Il y a un véritable soulèvement.
Sur le coup de
gueule. Contre Philippe David.
Le coup de gueule de Philippe David.
Mais j'ai des soutiens de vieilles famille. Nicolas Sancet, je t'embrasse, Nicolas. Merci de m'avoir soutenu. Cécile m'a enfin soutenu.
Il envoie des messages personnels à l'antenne.
Ce serait très intéressant de savoir si vous, parents, est-ce que vous jouez avec vos enfants? Est-ce que vous les mettez devant les dessins animés dès 6h du matin? Est-ce que vous faites ça, voilà, c'est une vraie question.
Bah ouais,
c'est une vraie
question. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que désormais, dans cette émission, j'incarne l'autorité.
Oui, enfin, l'autorité, tu incarnes le septémio-avantisme de plus en plus aigu. En fait, tu es en train de devenir un vieux con, hein, je te le dis tout de suite, un boomer. Tu es en train de reproduire tout ce qu'on a fait sur nous. Moi, je te le dis, je vous le dis.
Je ne vous permets pas de me tutoyer.
Non, bah on regarde juste ce qu'ont fait nos parents et foyer monoparental.
Vous êtes ravi du résultat,
maman, quatre enfants, voilà. Et ben on n'était pas devant la télé.
Voilà.
Regarde, oui, mais la démonstration par l'exemple, Cécile, vous savez très bien, vous êtes trop intelligente pour pas savoir que ça ne marche pas.
Trop intelligente. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix.
Non, c'est vrai.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité. Tu m'étonnes que ça sent l'artiste. Philippe Bilger.
Bilger. Vous voulez parler, Philippe Bilger, de hausse des... Oui, Philippe Bilger, c'est vous, dernière nouvelle.
Oui. Oui, mais depuis que je ne participe plus au jeu, je m'abstiens.
La mauvaise foi. Vous voulez parler des incivilités à France Travail en forte hausse.
Je serai d'autant plus bref que j'ai oublié ma sacoche où j'avais un article passionnant qui m'aurait permis de durer un peu.
En
2023, dans les 900 agences de France Travail, il y a une augmentation considérable des incivilités et des agressions de toutes sortes. Et ça, c'est un phénomène que on peut relier à une inquiétude délétère des gens qui viennent et qui, au lieu de discuter normalement, s'abandonne à une forme de violence, qu'elle soit bénigne ou extrême, mais ça montre aussi l'état d'énervement de notre société dans ces endroits où on va, parce qu'on est, inquiet et on attend une réponse de l'État.
François,
oui, bien sûr, parce qu'on a peur aussi d'être radié, parce qu'il y a des angoisses généralisées, et vous voyez ça, vous voyez apparaître maintenant dans les transports en commun, c'est pas parce que vous êtes contrôlé qu'il faut être agressif avec le contrôleur, vous voyez ça dans les contrôles, dans les bus, des tickets, etc. Oui, je suis d'accord, ça dit une angoisse existentielle, bref, générale.
Voilà. François Drugy.
Et ça dit peut-être aussi quelque chose, alors là, pour le coup, pour embrayer sur ce que disait Philippe David tout à l'heure, sur le côté les droits, mais jamais les devoirs. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a un droit, on a le droit d'être indemnisé, on a le droit d'avoir quelque chose, une aide sociale, on a le droit d'avoir son argent à la poste, même s'il n'a pas été versé sur le compte, et ainsi de suite, sans considérer qu'on a le devoir de respecter les autres, de respecter les agents publics, le devoir de respecter les règles, et que si les règles prévoient qu'on n'a pas l'indemnisation qu'on souhaitait, eh bien c'est l'application de la loi, et c'est pas contre la personne qui applique la loi qu'on doit s'en prendre.
Françoise de Goix, Jordan Bardella et Marion Maréchal, vidéo.
J'ai été extrêmement choqué, d'abord parce que j'ai entendu l'appel de Mathis. Vous savez, Mathis, c'est ce jeune ado de 15 ans qui a été poignardé par un autre ado, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et j'ai entendu le père de Mathis sur une radio hier matin qui disait à quel point il ne voulait pas que la mort de son fils soit récupérée politiquement. Il l'a dit 3-4 fois. Mmh. Et qu'est-ce qu'on a vu hier soir? On a vu Jordan dire, il l'a dit vraiment, il n'a pas envie de ça, il veut que la mort de son enfant lui appartiennent, même si de fait elle lui appartient déjà plus, tellement ce truc est sidérant et nous touche tous. Mais il a le droit de le dire. aucun respect, Jordan Bardella, qui nous s'est fendu d'une vidéo avec le drapeau français derrière. Mais non, vous trouvez ça excellent, moi je trouve ça pathétique. Et Marion Maréchal, dans la course à l'échalote entre les deux extrêmes droites, qui s'est évidemment précipitée pour faire la même chose, de façon un peu plus floutée, etc. Moi, je suis vraiment, honnêtement, ce n'est pas, je ne pratiquerai jamais la culture de l'excuse, je ne l'ai jamais pratiquée, je ne suis pas dans le déni de ce qui se passe dans cette société. Mais objectivement, quand un père, un parent vous dit arrêtez, n'exploitez pas la mort de votre enfant, le minimum, et la gauche aurait fait pareil, attention, c'est pas une question d'extrême droite ou droite, etc. La gauche se serait permis de faire ça, j'aurais dit non, c'est pas possible. Écoutez, c'était le matin sur une radio, le soir, les deux trompettes au vent, et voilà, l'immigration, la sécurité, tali, tala. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est un grand classique, ça a commencé en 2002 avec Papivoise, Tabassé, vous vous en souvenez certainement, deux jours avant le vote du premier tour de la présidence. Je trouve ça lamentable.
Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord totalement avec Françoise. Je pense qu'on a le droit de faire une synthèse. Les parents sont tout à fait dans leur rôle lorsqu'ils considèrent qu'on n'a pas instrumentalisé une tragédie. Mais les hommes ou les femmes politiques ont tout à fait le droit, à partir d'événements très spécifiques qui projettent une lumière très sombre sur notre société, d'en tirer les conclusions qu'ils veulent.
Il y a un délai de décence à respecter. Non, je suis désolé de vous le dire, c'est pas possible, on est dans une campagne électorale. C'est un truc de charognard, un truc de vautour.
On n'a pas son avis.
Moi, je suis assez d'accord pour le coup avec Françoise Degoy, mais le problème, c'est que je pense que malheureusement, ça ne changera pas parce que tous les courants politiques font ça, tous les médias font ça.
Rappelez-vous la mort du petit Ayla, où on nous disait qu'on était inhumains à prendre tous les migrants
dans un. J'allais donner l'exemple des naufrages de bateaux de migrants, où à ce moment-là, toutes les associations pro-migrants viennent dire c'est un scandale, voyez comme, etc. Donc, y compris en disant des bêtises, mais absolument inacceptables. Par exemple, comme quoi les autorités françaises ne voudraient pas les secourir. Moi, j'ai rencontré des marins de la Marine nationale qui passent leur temps dans le détroit de Calais
qui prennent des risques,
qui essayent d'amener d'ailleurs les migrants sur les bateaux de la Marine nationale pour les sauver, qui souvent ne veulent pas et qui disent non, laissez-nous continuer à aller vers l'Angleterre. Donc ça, malheureusement, ça fait partie de l'emballement médiatique à partir de tous les sujets qui touchent légitimement les gens.
On n'a pas le droit en campagne électorale en faisant ça.
Mais on ne parle pas de campagne électorale.
Philippe, dans le cas de Bardella et de Maréchal, vous savez très bien ce qui est en train de se jouer. Ils sont en train de se jouer d'une
mais
personne.
Mais ça n'empêche pas qu'ils ont raison.
Non, ils n'ont pas raison de faire ça. Non, c'est moche de faire ça. C'est moche en plus de ça, dans cette course à l'échalote entre les deux. Une pour bouffer les Républicains et l'autre pour bouffer ce qui reste de l'extrême droite.
De Philippe Bilger et on y va.
Mais c'est pas une course à l'échalote. Oui ou non, est-ce qu'il a été poignardé par un jeune homme afghan de 15 ans
et
dans des conditions...
On l'a tous bien compris.
Un régalien dans cette France. Et il est normal qu'ils en tirent des réflexions.
Allez, tu parles de réflexions, c'est des clips de propagande.
Dans un instant, avec François de Rugy sur un autre sujet, la pollution au plastique. Une petite pause, on se détend, on prend une camomille et on revient dans un instant.
Ça s'est passé sur Sud Radio.
Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris.
Sud Radio, parlons vrai.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Sud Radio Albi.
101.2.
Sud Radio.
La Poste. Déjà ? Adverbe qui, prononcé de manière surprise, décrit une chose qui arrive bien plus vite que prévu, comme par exemple une indemnisation.
Alors pour être indemnisé sous 48 heures en cas de sinistre couvert, découvrez l'assurance habitation de la Banque Postale. Pendant les bons plans logement de La Poste, pour toute nouvelle souscription jusqu'au 19 mai inclus, les 4 premiers mois sont offerts.
Conditions sur labanquepostale.fr. CNP Assurance IARD, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Ah, c'était trop cool ce premier date avec toi, Chloé.
Mais ça t'ennuie pas de payer le resto? Hein, parce que je dois réparer ma voiture. Gros frais, hein.
Ah, Paul n'est pas très crédible. Pendant les Oscars Odaise, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Cette émission est très intéressante, mais elle est fatigante. Je vous le dis. Je suis au bout du rouleau.
On dirait la maîtresse, si tu veux, la cour d'école, complètement déchaînée, désazimutée. Ah, il y a François Drugy, toujours le bon élève, calme de la classe.
Sur le rouleau, il ne reste plus qu'une feuille, je vous préviens. C'est la fin des haricots. Avec nous, Philippe Bilger, Françoise Degois, François Drugy. Et vous, au 0826-300-300, on est ravis de vous accueillir. Et avec François Drugy, dans le tour de table de l'actu des vraies voix, la question est la pollution au plastique, la faute à qui?
Oui, je voulais revenir sur un article que j'ai lu ce matin. Je ne vais pas citer le site d'information sur lequel ça a été publié, parce que je ne voudrais pas le mettre en cause et lancer une polémique avec ce site, mais normalement, il est tout à fait fiable. Le problème, c'est que quand on lit l'article, en fait, on a l'impression qu'on est tous responsables de la pollution plastique, qu'évidemment, ça va de mal en pis, et que les industriels nous cachent le fait qu'ils inondent le monde de plastique, que la pollution plastique en mer augmente, etc., etc. Et tout ça autour quand même d'un sujet très sérieux qui est une conférence internationale qui vise à réduire le plastique. On nous cite des scientifiques mais sans nous dire quelle équipe, etc. Enfin bref.
Bon, tu peux citer le site là.
C'est la même rengaine. Non mais peu importe. C'est la même rengaine que ce qu'on entend sur beaucoup de sujets écologiques. Mmh. C'est tout va mal, ça va de mal en pis. Vous êtes tous responsables. Les grandes entreprises nous cachent tout. La réalité c'est quoi? C'est que en effet la pollution plastique au niveau mondial augmente. Mais dans notre pays. La France, il faut quand même dire, je vais aller vérifier les chiffres. On produit beaucoup de déchets par an, 550 kilos par an et par habitant. Hein, donc ce qui fait plus d'un 1,5 kg par jour et par habitant. C'est pas tous des déchets plastiques d'ailleurs, déchets. Mais sur les 10 dernières années, l'augmentation du recyclage a été de 14 points. Donc moi j'en ai marre qu'on passe notre temps à décourager les gens, parce que si on leur dit tout va mal, c'est de la faute des grandes entreprises, eh bien plus personne n'a envie de rien faire. Or les efforts des Français, parce que les Français font des efforts pour le tri et donc le recyclage, eh bien ils finissent par s'améliorer. Et savez-vous quelle est la meilleure solution, celle qui est la plus efficace si on veut trier davantage et recycler davantage les plastiques comme les papiers comme le reste?
D'arrêter de manger.
C'est pas de dire c'est la faute à tel producteur de soda ou c'est la faute à tel producteur de plastique. C'est tout simplement de facturer la collecte des ordures ménagères. Hein, c'est quelque chose d'assez simple qui peut se faire dans toutes les collectivités de France et de Navarre. Non pas comme on le fait bêtement dans les trois quarts des cas par une taxe.
Oui.
Qui est forfaitaire, qui est une taxe additionnelle à la taxe foncière. Donc si vous avez un grand appartement, vous payez une grosse taxe. Si vous avez un plus petit appartement, vous payez une plus petite taxe. Mais ça ne tient absolument pas compte de ce que vous faites en matière de déchets. Or, il y a un dispositif qui existe dans la loi, c'est la redevance incitative.
Oui.
Et là, on vous facture au réel. C'est-à-dire, si vous avez énormément de déchets, bah, vous payez plus. Si vous triez beaucoup, bah, vous payez moins. Et ça, quand on le fait, ça marche. La Haute-Saône, j'ai visité ce département quand j'étais ministre il y a 5 ans. Eh bien, ce département a généralisé la redevance incitative. Et à ce moment-là, il a deux fois plus de bon tri et de recyclage que la moyenne française.
Philippe Bilger, c'est ce qu'ils font en Allemagne, la consigne.
J'ai toujours un peu peur, mais bon, c'est intéressant, François, mais qu'est-ce qu'on fait des
Et donc, c'est pas l'État nounou pour rebondir sur ce que disait Philippe David tout à l'heure, c'est au contraire l'État qui responsabilise.
Oui.
Puisque là, on dit, vous payez plus si vous polluez plus, si vous avez plus de déchets, si vous triez moins. Et vous payez moins, on vous récompense si vous triez plus.
Mais ces 14%, on en fait quoi, là?
On en fabrique par exemple, à Paris, par exemple, on fabrique de l'électricité. C'est quelque chose, par exemple, qu'on ignore.
On fait des polaires.
On fait des polaires.
Voilà, on est capable de recycler le plastique aujourd'hui.
On fabrique avec tout ce qu'on recycle, où vont nos poubelles, et bien à Paris, au cœur de Paris, on fabrique de l'électricité.
Alors Paris n'est pas malheureusement les grandes villes ne sont souvent pas à la pointe, et les territoires ruraux, les villes moyennes sont souvent meilleures.
Je voulais juste dire que vous avez raison, mais n'empêche que vous parlez d'exemple français, mais c'est véritablement européen. Le tri sélectif en Italie, il est tellement fort et ça fait tellement d'années, si vous voulez, qu'il faut quasiment bac plus 5 pour savoir comment trier entre le secco, l'humido, etc.
Non, il faut 5 bacs, c'est pas pareil.
Non, on a 6, voire 6. Et honnêtement, moi je trouve qu'on avance et que l'objectif de tenir en 2040 l'Union Européenne continent zéro déchet plastique, eh bien moi je pense qu'on peut le tenir et je suis d'accord absolument avec François sur l'idée de responsabiliser les gens.
Avec une bouteille en plastique comme la vôtre, Philippe Léger, on peut même faire du carburant pour les véhicules à gasoil.
Et regardez ce qu'ont fait les industriels maintenant, les bouchons ne se détachent plus, ça a l'air absolument de rien, mais c'est très important parce que les bouchons partent pas dans la nature et vous balancez ça et c'est trié directement. Je trouve qu'on progresse vraiment.
Oui. Ah, y a une vraie pédagogie à faire là-dessus, mais c'est vrai que ça va mieux, hein, François Drougy, mais après...
Ça va mieux à l'échelle française. À l'échelle du monde, c'est pas le cas, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui ne collectent même pas les déchets. S'ils les collectent, qui ensuite ne les trient pas ou ne les valorisent pas. Ce que l'on faisait, nous, il y a 50 ans. En France, il y a 50 ans, c'était des décharges, et parfois à la mer. Moi, j'en connais, j'ai plusieurs exemples en tête, en Bretagne, dans le sud, etc.
Donc ça,
quand on y met fin, quand on a une bonne collecte, un bon système, eh bien, on y arrive. Plutôt que de dire, il faut arrêter totalement les plastiques. Il y a quelques, 10 ou 15 ans, on a diabolisé le papier. On a dit, il faut plus utiliser de papier, il faut plus utiliser de carton. Après, maintenant, on diabolise le plastique. Du coup, d'ailleurs, on réhabilite le papier et le carton, parce que les sacs papier à la place des sacs plastiques.
Combien ça coûte?
Donc, restons un peu rationnels et ayons tout simplement une bonne politique de tri et de recyclage.
Le sac réutilisable, regardez le verre. Imaginez, on dit, oui, il vaut mieux acheter en verre, mais franchement, votre bouteille d'huile d'olive, entre la bouteille en plastique et la bouteille en verre, qu'est-ce qui pollue le plus? Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? C'est le verre ou c'est le plastique? Maintenant, moi, j'achète mes bouteilles d'huile d'olive, très bonne marque. La plupart des très bonnes marques font aussi maintenant des bouteilles en plastique plutôt que d'utiliser le verre qui pollue encore plus. Voilà.
Mais il faut acheter en plastique et le mettre dans une bouteille de verre que vous gardez.
On a tous le même système.
Et bien écoutez,
c'est dommage, dans ce débat, j'aurais pas pu plastiquer Françoise de Gaulle.
Mais vous devriez faire une émission spéciale sur l'eau, le plastique, etc.
On l'a déjà fait dans
Philippe, pourquoi vous n'allez pas travailler chez Rire et Chanson?
Camarade des deux ânes, je vous vois bien. Trois spectateurs par soir,
les plus anciens connaissaient l'almanach Vermeau.
L'almanach.
Et quand
Philippe
vous dites les deux ânes, vous m'incluez de nom?
Non, pas du tout, je mets lui et Philippe Bilger.
François Drougy pour ce sujet intéressant, passionnant. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, le droit de veto de l'Union européenne. Emmanuel Macron évoque une volonté d'y mettre fin pour passer au vote à la majorité qualifiée. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann souhaite, lui, limiter le cas de vote à l'unanimité.
Alors parlons vrai, est-ce que la fin de l'unanimité, ça ne signifie pas la fin de la souveraineté en politique étrangère? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers plus de fédéralisme? Est-ce que l'unanimité ne crée pas l'impuissance? Et à cette question, Europe, faut-il mettre fin à l'unanimité pour la politique étrangère? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826-300-300.
Et notre invité aujourd'hui, Max Erwan Gastineau, qui est avec nous, essayiste, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique, et auteur d'une tribune contre la fin du droit de vote dans le Figaro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il faut étendre finalement la suppression sur tous les sujets? Le climat, l'énergie, les matières sociales, comme le veut Ursula von der Leyen?
Dans ses mémoires, le général de Gaulle dénonçait, je cite, les illusions de l'école supranationale. L'idée selon laquelle, plus l'Europe fait de choses, mieux les Européens se porteront. Je crois que c'est en effet une douce illusion.
Allez, on en parle dans un instant. 0826-300-300, vous êtes les bienvenus avec Aude qui vous attend derrière ce numéro. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi, je regarde les matchs, mais je fais le coup plus le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil, ça vous a fait plaisir?
Ça aurait pu, sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe, dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les trois brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
À ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même, ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Prade.
105.7.
Sud Radio.
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Super Diète, le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Super Diète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Super Diète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous aider à avoir une peau nette, choisissez le zinc Super Diète, une formule 100% végétale sans additifs. Pour votre santé, bougez plus.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On vous souhaite la bienvenue, on est très heureux de vous accueillir tous les jours et merci d'être si nombreux et de nous écouter parce que parfois c'est pas facile. Voilà, c'est pas, surtout quand, bon, c'est, quand on a des personnes à discipliner comme aujourd'hui. Bien entendu, je sors du jeu Philippe Bilger, bien sûr. Quand on a des... Je parle de Françoise de Goy, un petit peu de François de Rugy aujourd'hui, mais encore ça va.
Lui,
ça va.
Et
de Philippe Desclos.
C'est toujours moi en fait, en vérité, c'est toujours moi. Vous avez le pire des tricheurs, menteur comme un arracheur de dents. Bilger, vous continuez à créer, à forger la légende d'un type intègre, magistrat.
Elle vaut bien la légende de Jimmy. Hein.
Rien du tout, nada, niente. Que chi, que dalle.
Mais on est très heureux. On est très heureux d'avoir notre Françoise de Goy.
Moi aussi,
voilà.
Je suis heureuse d'être là, malgré tout. Moi aussi,
allez les amis, on y va, le coup de projecteur des vraies voix.
Ouais. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
C'est-à-dire que je considère qu'il est illusoire et pas forcément efficace de vouloir tout faire à 27.
La situation que nous observons actuellement nous montre à la fois que nous pouvons parvenir à l'unanimité contre une menace étrangère, mais dans le même temps, cette unité est très fragile.
Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sanctionner Vladimir Poutine? C'est parce qu'il n'y a pas d'unanimité des 27.
Dépendre d'une personne, comme Viktor Orban, qui n'est pas d'accord avec toutes les mesures et avec qui nous avons des problèmes, cela met en effet l'Union européenne dans une situation très difficile et que nous pourrons surmonter seulement si nous nous débarrassons de la règle de l'unanimité.
Dans le cadre du processus décisionnel de l'Union européenne, le droit de vote qui exigeait l'unanimité des 27 membres pour toute décision au Conseil européen est au cœur des débats. Emmanuel Macron aborde la possibilité de mettre fin à ce système en faveur d'un passage au vote à la majorité qualifiée pour la politique étrangère et la fiscalité. Une initiative soutenue par la France et l'Allemagne. Et pour rappel, la Hongrie a régulièrement exercé son droit de veto, bloquant seuls certains projets d'aide financière, par exemple avec l'Ukraine, malgré le consensus des autres membres de l'Union européenne. Philippe.
Alors parlons vrai, est-ce que la fin de l'unanimité, ça signifie pas la fin de la souveraineté en termes de politique étrangère? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers plus de fédéralisme? Il y a d'ailleurs eu une tribune signée par de nombreuses personnalités la semaine dernière dans le Figaro. Est-ce que l'unanimité, ça ne crée pas l'impuissance? Et à cette question, Europe, faut-il mettre fin à l'unanimité pour la politique étrangère? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826-300-300.
Et Max Erwan Gastineau est avec nous, essayiste, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique et auteur justement de cette tribune contre la fin du droit de veto. C'était dans le Figaro. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger.
Alors... Pardon.
Ça va, François?
Ça n'est pas la difficulté de la tâche qui me fait tousser.
Non.
A priori, quand j'entends une question comme celle-ci... En n'étant pas un grand spécialiste de l'Europe, hein, je le précise aussi, j'aurais tendance à dire, c'est très bien d'arriver à la majorité qualifiée parce qu'on aboutira à une Europe apparemment plus efficace. Et à peine ai-je pensé cela que, désireux de penser contre moi-même, certains souhaiteraient que je le fasse le plus souvent possible.
Vous faites jamais,
eh bien, je me demande si, en réalité, l'obligation de n'avoir une majorité pleine et entière ne permet pas parfois, d'échapper à un double extrémisme. Il y a les délires européens qui peuvent surgir, et dans ce cas-là, ce qu'on appelle les pays populistes, que moi j'aime beaucoup, pourraient éventuellement entraver le cours délétère d'une Europe totalement fédéraliste, et de l'autre côté, on pourrait avoir l'inverse. Est-ce que l'unanimité n'est pas une manière de protéger l'Europe contre des aberrations?
Françoise de Gaulle.
Moi, je suis absolument pour la majorité qualifiée, parce qu'elle est pondérée. Il ne faut pas penser que c'est une majorité à 51%. Dans les textes, ça dépend des programmes. Je regardais chez Glucksmann, je regarde chez Macron. Même, je ne sais pas si François Bellamy est favorable à ça, mais en tout cas, ça doit représenter tant de pourcentage de pays, ou 65% à peu près de la population. Donc ça n'est pas une majorité à 51 contre 49, la majorité qualifiée. C'est une majorité qui ça exige beaucoup plus de poids. Moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Il me semble qu'à partir du moment où l'Europe a considéré par principe on ne punit pas un pays à cause de ses gouvernants pour ne pas punir ses populations, c'est ce qui se passe avec Orban. Je rappelle quand même que l'ami Viktor Orban, il contribue à hauteur en gros de 4 milliards d'euros par an à l'Europe, et il en empoche 11 ou 12 milliards. Donc ça va bien aussi, c'est pas un guichet, un libre-service l'Europe. Donc je suis absolument pour, sur des choses très précises pour éviter les blocages. De la même manière, je pense que si on avait cette capacité-là au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on s'en porterait mieux aussi.
François de Rugy.
Oui, moi j'ai toujours été plutôt pour des majorités qualifiées que des unanimités systématiques. Il y a certains domaines où ce sera toujours sans doute la règle de l'unanimité, comme la défense. Je pense pas qu'on envisage en Europe, aucun pays, je pense, n'envisage qu'une instance européenne décide de l'envoi de soldats contre l'avis de tel ou tel pays. En revanche, il y a des cas concrets, et je suis étonné que Raphaël Glucksmann dise qu'il est contre l'unanimité et qu'il veut y mettre fin, alors que dans le même temps, il a dit, il s'est réjoui, mais avec les Républicains, ce qui à mon avis est absurde, que le Sénat français puisse par un vote bloquer un accord commercial 7 ans après, en plus, avec le Canada. À une autre époque, la gauche française s'est glorifiée que la région de Wallonie, donc c'était même pas la Belgique, c'était la région de Wallonie, bloque également un accord commercial, alors que la négociation des accords commerciaux fait partie des compétences de la Commission européenne.
Oui, mais
c'est noir sur blanc dans les traités.
Oui,
donc ça montre que malheureusement, les gens sont pour la règle de la majorité qualifiée quand ils pensent que la décision ira dans leur sens, ils sont pour l'unanimité et le droit de veto quand ils pensent que ça n'ira pas
vous
dans leur sens.
Tout, là,
c'est concret.
Les amis, ça n'a rien à voir. C'est l'obligation de passer devant les parlements nationaux. Non, je suis désolé.
C'est le droit de veto. C'est le droit de veto à un pays et même à une chambre dans un pays.
S'il vous plaît.
On a un invité.
Max Erwan Gastineau, essayiste, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique, auteur d'une chronique dans le Figaro Vox à ce sujet. On vous écoute pour faire le juge de paix entre les vraies voix.
Non, ça ne sera pas le juge de paix.
Il a donné son opinion.
J'ai en effet publié une tribune, une opinion centrée sur la fin du droit de veto sur les questions de politique étrangère. Et donc je tiens à rester dans ce cadre. Ça ne veut rien dire de parler de la fin du droit de veto en général, il faut parler concrètement, et moi je parle des questions de politique étrangère. Mettons-nous dans la peau de la France, notre pays, en 2003, face à la guerre en Irak. Que se serait-il passé si la politique étrangère de l'Union européenne avait été décidée à la suite d'un vote à la majorité qualifiée? La France aurait suivi ses alliés européens, qui ne jurent que par un atlantisme de confort, elle aurait donc soutenu les États-Unis dans cet aventurisme que nous continuons de payer aujourd'hui. Car nous ne vivons pas dans un monde régulé, entièrement concentré, focalisé sur le conflit russo-ukrainien. Il faut voir beaucoup plus large, comme l'évoquait dernièrement Dominique de Villepin au micro de LCI. Nous sommes plus isolés que la Russie. C'est ça la grande nouveauté du système international. C'est pas que la Russie tienne à préserver le monde russe au sein duquel l'Ukraine aurait vocation à rester. C'est le fait que l'Occident est isolé parce que la Russie n'est pas sanctionnée par les autres pays. La croissance russe va être supérieure à la croissance cumulée des pays occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a des nouveaux alliés. L'Inde, qui est proche
des Européens, qui est proche des Occidentaux, mais qui maintient ses liens avec la Russie, la Chine, les pays d'Amérique latine. Nous nous enfermons dans un bloc occidental. Alors qu'il faudrait nous enfermons dans un bloc occidental et la fin du droit de veto sur les questions de politique étrangère, c'est l'assurance pour la France d'être systématiquement minoritaire, puisque notre pays est le seul en Europe à porter. Est le seul en Europe à porter une autre voie que cet atlantisme de confort dont je parle.
Mais l'Allemagne était contre l'intervention américaine en Irak.
Mais justement, parce que la France a pris une position forte, elle a assumé.
Les amis,
mais justement, parce que aucun autre pays que la France n'aspire à une Europe indépendante des États-Unis. Et vous le voyez sur chaque dossier. Et je voudrais juste terminer sur un point.
Après, ce sera vous, Françoise.
La vision d'Emmanuel Macron. Macron aussi, il y a deux grandes tendances dans la géopolitique en France. Il y a la tendance, on va dire, gaullienne et la tendance occidentaliste. Macron, c'est dû en même temps, y compris sur la géopolitique. C'est d'un côté, nous allons créer, réifier un bloc occidental au sein de laquelle la France perdra de l'influence parce qu'elle sera systématiquement minoritaire sur les dossiers géopolitiques. Et en même temps, il affirme la spécificité française, et je réponds d'autres à votre objection, la spécificité française, c'est lorsque Emmanuel Macron revient de Chine et dit que les Européens n'ont pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain. Nous devons avoir notre propre vision du monde, notre vision du dossier chinois. Et lorsque Macron propose en décembre 2023, donc en décembre dernier, de participer au sommet des BRICS, le jour où la France ne sera plus maîtresse de ses destinées en matière de politique étrangère, cette décision, cette proposition qui va dans le sens de l'histoire, de l'évolution du monde, sera complètement absurde. Or, nous devons nous ouvrir à de nouveaux pays, pas simplement à nos alliés occidentaux.
Je relance sur la guerre en Irak, il dit vrai, parce qu'on aurait été... Je peux terminer, il n'y avait que la France, l'Allemagne et la Belgique qui étaient contre.
C'est la puissance, excusez-moi, la majorité qualifiée, on sait de quoi on parle. On parle de ce que ça représente en population, par exemple. Si vous représentez, trois pays représentent 65% de la population.
Ils ne représentaient pas 65%.
Pas pour la guerre en Irak.
Elle était pour, Berlusconi la soutenait.
Mais d'accord, je
suis Aznar la soutenait. Blair la soutenait.
D'accord, mais l'Allemagne et la France ne la soutenaient pas. Et par ailleurs, excusez-moi, je vais jusqu'au bout de ma démonstration. Vous êtes complètement délirant d'expliquer que la France aurait perdu sa souveraineté. On parle de décision européenne. Il ne s'agit pas de remettre. Mais il ne s'agit pas de remettre les clés de la politique étrangère française avec la
réalité. La France en 2003 n'a pas eu peur d'être seule. Et parce qu'elle n'a pas eu peur d'être seule, elle a affirmé une position.
L'Allemagne l'a suivi. Si demain, avant de prendre position, nous devons demander aux Européens l'autorisation. Excusez-moi, la France ne peut pas être qualifiée.
La France
ne peut pas se distinguer uniquement sur un discours aux Nations Unies. Arrêtez avec ce mythe et cette folie générale sur ce qu'est la politique de la France. Sur ce que vous dites sur la Russie qui n'est pas isolée. Je suis d'accord avec vous sur les BRICS. Je suis absolument d'accord avec vous, mais arrêtez de faire de l'Europe une espèce de petite chose qui serait une sorte de poupée de chiffon que entre les États-Unis et la Chine. Ça n'est pas vrai.
Revenons au cœur du sujet. Est-ce que lorsque l'Union européenne veut prendre une décision de politique étrangère pour elle-même,
pas
à l'ONU, pas ceci, pas dans les relations avec les pays, pour elle-même, est-ce qu'elle le fait à la majorité qualifiée, qui peut être une majorité large, solide, ou est-ce qu'elle le fait à l'unanimité? Voilà, c'est ça le débat. Ayons ce débat au moment des élections européennes, ça c'est utile. Excusez-moi. Parce que si ça doit évoluer dans les années qui viennent, eh bien qu'au moins les députés européens qui seront élus, on sache sur quoi ils se positionneront.
Je voudrais terminer sur cette question de 2003 et aller plus loin. Je rappelle quand même que vous faites comme si la France n'avait pas cette puissance-là. Il nous en reste qu'une à peu près puissance. C'est le poids de notre vote au Conseil de sécurité de l'ONU.
Et la force de frappe nucléaire.
Je suis absolument d'accord avec vous, Philippe. Mais sur le plan diplomatique, nous avons sur le plan de la défense la dissuasion nucléaire et nous avons le poids du droit de veto. Écoutez, arrêtez de faire comme si d'un seul coup, nous serions totalement affaiblis et totalement enfoncés. Ça
Philippe
n'est pas vrai.
Bidger.
Pour que je comprenne bien, au fond, quelle serait l'Europe que vous souhaitez?
Je pense que... Et je vais faire un parallèle avec la transition énergétique. La France a assumé de défendre, contre la position qui était celle de l'Union européenne, l'industrie nucléaire, parce qu'elle était conforme à son intérêt national.
Elle a fait changer la position de l'Union européenne.
En faisant valoir un dissensus constructif en défendant son intérêt national. Mmh. Elle a brisé l'unité européenne
en créant
et elle a entraîné dans son sillage des pays d'Europe centrale et orientale. Mais parce qu'elle a osé assumer sa position pour,
donc,
que, bah pour demain.
Donc,
belle
la politique énergétique de l'Union européenne n'est pas décidée à la majorité. Le jour où demain, dans l'Union européenne, pour prendre une décision, il faudra passer par un vote à la majorité qualifiée, la France, avec sa position qui consiste à dire que l'Europe doit être indépendante des États-Unis, sera systématiquement seule. Parce
ça
que tous les pays d'Europe occidentale, comme tous les pays d'Europe centrale et orientale, sont convaincus que nous formons un bloc occidental uni face à un reste du monde hostile. Je crois qu'il faut complexifier notre rapport au monde.
Et puis quand vous, je pense que vous le simplifiez, c'est vous qui
le simplifiez. Justement, nous ne vivons pas le retour de la guerre froide, nous ne vivons pas une logique de bloc avec d'un côté le bloc autoritaire et de l'autre un bloc occidental. Il faut avoir une vision beaucoup plus souple relations internationales, et je crois que la France le porte. Mais pour que la France porte cette voix spécifique et soit entendue, il ne faut pas un vote à la majorité qualifiée, parce qu'elle s'en remettra toujours à des alliés qui, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et veulent suivre les États-Unis.
Quand on voit les achats d'armes, tout le monde a acheté des F-35, il n'y a que les Grecs et les Croates qui ont acheté quelques rafales. Les Européens sont liés sur les États-Unis.
Excusez-moi, la plupart des candidats...
Pourquoi ils n'achètent pas des rafales?
Est-ce que si vous partez là-dessus, la plupart des candidats, commencé par Macron, continué par Glucksmann et François-Xavier Bellamy, propose par exemple la préférence européenne sur les commandes publiques. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Donc,
vous comprenez ce que je veux dire? Mais que la Commission européenne est contre parce qu'elle est pour le libre-échange total.
C'est pour ça qu'il y a des élections.
Ne hurlez pas, s'il vous plaît.
C'est pour ça qu'il y a des élections. Et quant à ce que vous dites, la majorité qualifiée, elle se prendrait sur la politique internationale, sur la politique des affaires étrangères et sur la fiscalité. Pourquoi vous mettez l'énergie dedans? Pourquoi vous?
C'est surtout qu'il faut arrêter avec cette autoflagellation française qui consiste à dire nous sommes tout seuls, nous sommes isolés, toute l'Europe est contre nous. Mais c'est faux, il y a plein de sujets et l'exemple du nucléaire en est un excellent sur lesquels la France est parfaitement en mesure de rassembler d'autres pays avec elle, de créer des coalitions au sein de l'Union européenne et ensuite d'être majoritaire. Et heureusement, et contrairement à ce que vous dites, c'est pas vrai que les pays d'Europe de l'Est sont d'un seul bloc, tous pro-américains. D'ailleurs, Orban, sur les sanctions par rapport à la Russie, sur l'Ukraine, il n'est pas du tout sur la ligne américaine.
Il a dû se rangé parce que justement il était isolé. Sur justement, c'est intéressant les questions relatives justement à ces petits pays d'Europe centrale et orientale, parce que une Europe, la Pologne était contre, la Pologne a peut-être évolué du fait de la nouvelle majorité, mais la Pologne était longtemps contre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur souveraineté. Il faut comprendre que ce sont des petits pays qui ont été longtemps dominés par les empires.
C'est 40 millions d'habitants.
Oui, mais d'accord, mais ça reste quand même une petite nation au sens. Une petite nation, si je peux. Une petite nation au sens où l'entendait Milan Kundera, c'est une nation qui a conscience de sa vulnérabilité, parce qu'elle a disparu pendant plus de 120 ans, la Pologne, la Hongrie, toutes ces petites nations, la Slovaquie, la Bulgarie, qui ont été dominées par des empires. Si l'Europe devient une sorte de nouvel empire, quand bien même serait-il démocratique, ils ne vont pas suivre. Il ne faut pas oublier qu'une décision, une bonne décision, c'est une décision durable, et une décision durable, c'est une décision qui a la légitimité derrière elle. Si ce sont des exécutifs européens majoritaires qui imposent leur discipline à des minorités récalcitrantes, vous allez fragmenter l'Europe. Vous n'allez pas consolider l'Union européenne.
La discipline budgétaire, vous avez vu la situation de la France, de l'Italie et d'autres pays. Est-ce qu'on est dans le traité de Maastricht? On n'y est pas depuis quasiment le traité de Maastricht.
Si l'Allemagne.
Les Pays-Bas.
La Finlande.
C'est pas une dictature, l'Europe. C'est pas l'Empire
ottoman. Mais qui a parlé de dictature? Qui a parlé de dictature?
C'est pas la Yougoslavie.
Tito.
Moi, je sais pas moi.
Moi, j'aime bien ce qu'a dit Bruno Le Maire récemment sur la. Je reviens à l'énergie, qui est mon domaine de compétence, mais peu importe. Bruno Le Maire a dit il faut que l'Europe fixe des grands objectifs, charge ensuite aux États-nations de les atteindre à partir de
leur toujours
propre
passé.
Comique. C'est toujours
non, passé.
C'est pas non,
si.
Il y a la tentation.
Et c'est en grande partie inefficace.
Il y a la tentation après chaque crise de transférer. Et Emmanuel Macron l'incarne, de transférer toujours plus de compétences à l'échelon supranational, le toujours plus d'Europe était la panacée. Non, il faut que l'Europe se contente de peu, de fixer des grands objectifs et laisse le choix aux États européens de choisir leur ligne et en matière énergétique, que la France fasse nucléaire si elle veut, que l'Allemagne ne le fasse pas.
Non,
il a fallu l'imposer, parce que l'Europe voulait réifier.
Mais la preuve, la France et le cadre de la transition énergétique sur le sujet ont deux lignes complètement opposées sur la politique énergétique.
Et la France s'est longtemps pliée, notamment à l'époque du gouvernement socialiste, en remettant en cause.
Mais c'est absolument pas l'Europe qui nous a imposé quoi que ce soit.
Les
femmes ont sa propre voix, l'Italie a sa propre voix. Tous les pays ont leur voix en matière énergétique.
Là, justement.
Excusez-moi, moi je veux dire.
juste reste 30 secondes.
Cette idée générale de penser que nous sommes, je sais très bien que tout ça est trimballé par la technostructure, nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas élus, toujours les mêmes anciennes, je suis dévoûté. Mais je sais que ce n'est pas votre argument.
Allez, on
la réalité, c'est que le Parlement européen a de plus en plus voix au chapitre. Oui, oui. Et je pense, au contraire, moi, que la majorité qualifiée, c'est profondément démocratique.
Le
et que la France n'est pas un petit pays, une petite puissance moyenne qui est incapable d'entraîner les gens. Ça, c'est pas vrai.
Max Erwan Gastineau, le mot de la fin.
La France n'est pas un petit pays et elle peut faire valoir une voix spécifique sur la scène internationale. Si elle se lie toujours plus à un bloc occidental suranné, nous ne vivons plus à l'époque de la guerre froide, sa voix sera toujours plus diluée. Or, nous avons besoin de nous adresser aux pays du Sud. Ouvrons-nous, tout ne se joue pas en Ukraine.
Merci beaucoup, Max Erwan Gastineau. Essayez, suis épuisé, moi, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique. Et auteur de cette tribune contre la fin du droit de veto dans le Figaro. Merci d'avoir été avec
nous. Merci
de vous être battu comme un lion face à François Drugy.
Je fais que commencer.
Avec Françoise Debois et Philippe Bilger. Merci pour cette émission douce, j'ai envie de dire. Douce. Voilà, je vais garder ce mot.
C'est qui l'a dit, surtout. C'était très
ça
bien.
Ça me va vraiment bien. Allez, on vous embrasse et vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler emploi. Emploi dans l'industrie. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sera beaucoup plus calme.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps, Michel, ou...
Oh, depuis 6 mois, je ne connaissais pas votre radio et je me suis dit, tiens, là, au moins, il y a des journalistes qui posent des questions qui concernent vraiment notre vie de tous les jours.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable, hein.
Lidl, trop fort sur les